Yes, we work.
Yes, we work.
Cécile ?
Céline ? Bienvenue dans Yes, we work,
le podcast qui parle de ressources humaines, leadership et futur du travail.
Bonjour, je suis Cécile Rocabois.
Et je suis Céline Charvet.
Nous sommes toutes deux entrepreneurs, consultantes et coachs professionnels.
Nous accompagnons les entreprises dans la réussite de leur transformation, le développement de leurs ressources humaines et de leur impact positif auprès de leurs collaborateurs et plus largement au niveau sociétal.
Dans ce podcast, nous allons à la rencontre d'acteurs RH, de leaders du monde de l'entreprise, mais aussi de ceux qui les accompagnent dans leur démarche pour développer un futur du travail optimiste.
Nous partageons avec nos invités leurs expériences, questionnements et défis avec le sourire, tout en restant fidèles à notre marque de fabrique.
Parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux.
Et nous voilà avenue d'Iéna, devant le bâtiment de Urgo Medical Care, où on vient aujourd'hui rencontrer Christina. On a une belle porte bleue absolument magnifique. Tu viens, Cécile, on va à l'accueil ?
Oui, nous sommes absolument ravis de venir enregistrer ce podcast sur les émotions positives. Bonjour, on vient voir Christina Denis.
Très bien, je vais essayer de la joindre pour vous.
Bonjour Christina.
Bonjour Céline.
Bonjour Cécile.
Bienvenue à Iéna.
Merci de nous accueillir.
Je vous emmène avec moi.
Il est de plus en plus courant de parler des émotions au travail. Depuis une vingtaine d'années, notamment par le biais de best-sellers comme L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, les émotions et leur reconnaissance dans le contexte professionnel sont dans l'air du temps. Pourtant, les habitudes ont la peau dure. Les émotions sont encore largement considérées comme individuelles et reléguées à la sphère privée, de crainte qu'elles soient mal perçues ou vues comme un signe de faiblesse sur le lieu de travail. Nous sommes allés à la rencontre de Christina Denis, directrice des ressources humaines chez Urgo Medical France et New Venture.
Dire ou ne pas dire ce qui ne va pas, telle est la question que beaucoup de salariés posent avant d'oser exprimer leurs difficultés, leurs frustrations ou leur mal-être lié au travail. Les émotions restent un thème rarement évoqué en entreprise et pourtant, nous en ressentons en moyenne 4000 à 6000 par jour. En tant que directrice des ressources humaines, Christina, pourquoi est-ce un sujet important pour toi ?
Pourquoi est-ce important ? Parce que exprimer ses émotions, c'est déjà communiquer. Et communiquer, c'est transmettre un message à la personne qu'on a en face. Et ça permet justement de mieux échanger, de mieux se connaître et de répondre, d'être attentif à l'autre.
Quel est le parcours en tant que directrice des ressources humaines qui a fait que tu as commencé à t'intéresser aux émotions et que tu t'es dit, tiens, c'est un sujet qui peut être intéressant d'investiguer ?
Eh bien, tu sais, Céline, moi, j'ai travaillé avec beaucoup à l'international, avec des cultures très différentes, et notamment en Amérique latine, où les émotions font partie du quotidien. Et en fait, je me suis aperçue que le fait de transmettre ces émotions, de dire ce que l'on pensait, eh bien, ça donnait une énergie qui pouvait être très positive pour l'autre aussi. Même en situation de mécontentement, le fait d'exprimer fait qu'on va aller vers la solution.
On sait que ça peut être compliqué quand même pour des collaborateurs de se dire dans le cadre du travail, on va aller sur le sujet des émotions. Comment tu as pu l'aborder ? Comment tu arrives à faire que les collaborateurs aillent sur ce champ des émotions ?
Bah, par des petites questions, qu'est-ce que tu ressens, est-ce que tout est clair, est-ce que tu es content, est-ce que ça t'apporte quelque chose ou est-ce qu'il y a des points qui ne sont pas clairs pour toi ou qui te tracassent. C'est des petits questionnements qui font que à la fin on voit comment la personne se sent.
Alors Christina, nous avons eu la chance de venir rencontrer tes équipes à Dijon lors d'un séminaire où tu nous avais demandé d'animer un atelier sur les émotions positives. Alors qu'est-ce qui a motivé cette demande et puis pourquoi ce sujet traité de cette façon ?
Ben parce que justement, les émotions positives permettent d'échanger, d'être... En fait, c'est contagieux. Tu t'aperçois que lorsque tu fais attention à la personne, à l'autre et que si tu transmets même un bonjour en arrivant, vous savez, moi je suis commuteur, donc j'arrive tous les lundis sur un site qui, le fait de s'arrêter, de dire bonjour et de transmettre un sourire, bah, forcément la personne va vous répondre par un bonjour avec un sourire. Et du coup, là, lorsque vous recroisez cette personne, et bah, elle va être plus dans l'énergie positive. Je suis sûre que les émotions positives sont contagieuses.
Alors ça, c'est pas nous qui allons dire le contraire. Et en fait, ce dont tu parles, c'est également témoigner de la reconnaissance, en fait, parce que quand on dit bonjour à quelqu'un, déjà, on lui témoigne de la reconnaissance, le fait qu'il existe. Et c'est pour ça que c'est très, très mal vécu en entreprise des personnes qui omettent de dire bonjour, parce que ça peut être vécu comme je nie la présence de l'autre. Donc, on se rend pas toujours compte, du poids d'un bonjour.
Exactement. Je partage totalement. Rien que le fait de s'arrêter le long d'un couloir, ben, on fait attention aux personnes qui sont là et qui travaillent au quotidien dans une ambiance qui participe par des émotions positives à être positive, justement.
Et dans quelle mesure, alors, les émotions, ça a une racine commune avec motivation.
Action.
Et donc, dans quelle mesure ça peut justement motiver ses collègues, motiver les salariés pour qu'ils investissent pleinement leur fonction?
Pour moi, les émotions, c'est un lien de communication. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu transmets une émotion, même si c'est de la déception, même si c'est de la colère, tu cherches une solution en face ou tu cherches à comprendre l'autre. Donc, tu crées un lien de communication et forcément, qui dit communication, dit dialogue et recherche de solutions.
Alors, les émotions sont au cœur de notre vie, hein. C'est ce dont on parle. Elles sont déterminantes dans nos comportements et nos actions. Les sous-estimer ou les ignorer, finalement, hein, dans le contexte professionnel, ça amènerait à exclure quasiment le facteur humain de la vie de l'entreprise. Or, l'entreprise est un système qui ne peut pas vivre et se développer sans ses collaborateurs et collaboratrices. Concernant l'engagement, justement, de vos collaborateurs chez Urgo, est-ce que tu penses que de parler des émotions peut faire une différence?
Alors, moi, j'en suis convaincue. C'est pour ça que nous avons fait cet atelier. Après, il y a des personnes qui se disent mal à l'aise par rapport aux émotions. Et donc, le fait de les aborder par le côté positif fait que, finalement, on s'aperçoit encore une fois, hein, que c'est du dialogue, que c'est des échanges et que c'est le début de construire ensemble quelque chose. C'est à partir du moment où on capte l'attention d'une personne, où on s'intéresse réellement à son émotion, bah forcément, on est déjà dans la construction de quelque chose et en général positif. On construit pour... C'est construire, on ne détruit pas, on construit quelque chose de positif.
Donc là, on parle des émotions positives, avec l'éclairage, en effet, de la psychologie positive que l'on connaît. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque en entreprise à ne parler que des émotions positives? C'est-à-dire, est-ce que c'est une porte d'entrée pour commencer à parler des émotions en règle générale? Ou est-ce que on a envie de parler que du positif? Qu'est-ce que tu en penses?
Pour moi, les émotions, toutes les émotions doivent être accueillies. Donc, il y a des fois où on a des résultats, où on est sur un dossier, sur... les fameuses pannes informatiques ou ce qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas positif ou négatif finalement, c'est qu'est-ce qu'on en fait après? À partir du moment où, même si tu es en colère, si tu es déçu par un résultat, à partir du moment où quelqu'un s'intéresse à l'émotion que tu transmets, on va chercher ensemble tout de suite des solutions et dire comment est-ce qu'on peut faire les choses, ou je comprends que tu sois en colère, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? En général, on ne dit pas non, ça ne va pas et on va en plus essayer de détruire encore plus ou de te mettre encore plus en colère. Qui dit émotion dit recherche de solutions à partir du moment où il y a un dialogue et une attention de l'autre. Donc forcément, on revient au final même si on part avec des émotions de, on peut dire de colère, ou de, eh ben, elles vont se transformer à un moment, on va y voir quelque chose de positif parce qu'il va y avoir une solution.
Et donc, l'empathie a son importance dans ce contexte, c'est-à-dire être ouvert vers l'autre et essayer de comprendre le ressenti de l'autre. Et on sait très bien que dans la fonction de DRH, c'est pas toujours facile. Il y a parfois des décisions qui sont compliquées à prendre. Et quand on est en plus de nature empathique, qui peuvent impacter, comme par exemple licencier quelqu'un, c'est toujours une décision difficile, quelle que soit la situation. Et comment tu fais en tant que DRH justement pour gérer les émotions dans ces contextes un peu délicats?
Pour moi, il y a deux choses. Il y a déjà la décision, un diagnostic et le fond. Et il y a la communication et l'empathie que tu as par rapport à la personne. Empathie ne veut pas dire sympathie. On sait vraiment, on peut comprendre comment la personne va peut-être accueillir cette décision si on parle de se séparer de quelqu'un, mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a la décision, le fond, et il y a comment, petit à petit, on emmène la personne à comprendre que on est là pour que la situation se passe du mieux possible, et quelquefois, il faut la laisser prendre le temps de la digestion, de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre. Et j'ai un souvenir comme ça. J'ai une personne qui m'a dit, je viens de me faire licencier, mais finalement, avec le recul de mois après, je m'aperçois que c'était la façon dont ça avait été fait m'avait permis de rebondir autrement, de comprendre beaucoup de choses. Et c'est ça, en fait. C'est comment est-ce que on n'accompagne la personne au-delà de la décision elle-même.
Et alors, c'est un de nos sujets, phares avec Céline, le off-boarding. Comment on fait pour soigner le off-boarding? C'est-à-dire que nous, notre conviction, puisqu'on a toutes les deux été RH, c'est que notre rôle commence du début, de l'entrée de la personne jusqu'à la fin, et qu'on n'est pas toujours marié à vie avec une entreprise. Donc, c'est la vie de l'organisation de voir des arrivées, des départs. Pourquoi et comment on fait pour soigner le départ d'un collaborateur?
Je pense qu'il faut toujours revenir à la raison pour laquelle la décision, le diagnostic a été fait. Qu'est-ce qui fait que dans un parcours, donc revenir un parcours de un contrat de collaboration, qu'est-ce qui fait qu'à un moment la collaboration n'est plus aussi fructueuse, n'est plus aussi énergique, ou se transforme plus en difficulté de part et d'autre, et pourquoi il est important à ce moment-là de savoir s'arrêter ou rebondir sur autre chose. Ce n'est que le début vers autre chose. Et ça ne retire rien à la valeur, aux compétences démontrées. C'est juste qu'à un moment, les choses font que les organisations évoluent, que ça fait partie des changements, et que notre rôle, moi en tout cas, mon rôle en tant que DRH, c'est d'accompagner, de faire comprendre ces changements aux personnes, de donner de la visibilité, du sens sur ces changements. Après, des personnes peuvent l'accepter plus ou moins, ça prend du temps. Mais une émotion, que ce soit dans la vie professionnelle ou la vie personnelle, elle évolue dans le temps. Et ce qui est important, c'est d'être présent et de ne pas vouloir aller trop vite ou aller à son rythme à soi. C'est de pouvoir prendre le temps de bien parler avec chaque personne, parce que chaque cas est important. Et Dieu merci, on n'a pas si souvent que ça des cas de séparation douloureuse. Mais celles-ci, il faut particulièrement les soigner, effectivement.
Et puis, c'est important pour tout le monde, finalement. C'est important pour la personne qui sort de l'entreprise. C'est important pour toi-même et pour les RH, dans votre rôle de RH, d'avoir aussi ce sentiment de faire les choses bien.
De faire les choses bien.
Ouais. Et puis, c'est important aussi pour la marque employeur, mine de rien, parce qu'un salarié hors de l'entreprise, ça devient quelqu'un qui peut recommander ou qui peut être un détracteur.
Exactement.
Aussi.
Exactement. Exactement. Et c'est quelque chose auquel, nous sommes très attentifs chez Urgo Médical France, c'est d'accompagner les personnes au-delà de l'entreprise, que la séparation se passe toujours du mieux possible. en expliquant très clairement quelles sont les limites, quel est le sens, jusqu'où on va aller, en faisant ce que l'on dit et en disant ce que l'on va faire et de transmettre une certaine confiance. Je pense que le mot confiance vient aussi avec l'émotion, c'est-à-dire... quand on accompagne une personne, on est très clair sur ce qui va se passer, comment on va l'accompagner et on garde ça, on fait bien attention de bien respecter cet accompagnement.
Au final, si j'ai bien compris dans ce que tu viens de nous dire, une des forces notamment d'une DRH, c'est la congruence en fait, c'est-à-dire être aligné entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais avec les collaborateurs.
Complètement, complètement. Je pense que la DRH, pour moi en tout cas, ce qui est important, c'est qu'elle soit vue comme une personne qui est au milieu, ce qu'on appelle un intermédiaire, un interface. Ce n'est pas uniquement quelqu'un qui va traduire, j'allais dire, les décisions qui sont prises au niveau global, c'est quelqu'un qui va les expliquer, les accompagner. Et les expliquer dans quel sens et comment est-ce que chacun peut se situer par rapport à ses décisions. Et c'est quelqu'un qui doit montrer une certaine confiance, c'est-à-dire que lorsqu'un collaborateur vient voir la DRH avec quelque chose de personnel, il faut garder montrer que ça se montre tout au long du parcours de la personne dans l'entreprise. C'est pas au moment où de la séparation, où ça se montre vraiment tout au long du parcours.
Christina, les ressources humaines, c'était pour toi une vocation ou c'est quelque chose auquel tu es arrivée après un premier métier? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Alors, moi, j'ai commencé dans le métier de la communication. J'ai commencé comme attachée de presse, donc rien à voir. Et j'ai découvert les ressources humaines tout à fait par hasard. Je sais que c'est... en fait, j'ai découvert cette matière avec tellement d'enthousiasme, je me suis dit, mais c'est exactement ce que je veux faire. C'est-à-dire, une image, pour moi, c'est l'école de l'humilité, parce que ce n'est pas une image toujours très facile d'être dans ce rôle-là. Aussi bien côté, j'allais dire, direction que côté collaborateur. On a aussi les négociations, les échanges avec les organisations syndicales qui peuvent être quelquefois un peu théâtrales et qui font partie du... Et en fait, je me suis dit, mais c'est hyper intéressant parce que quel est le point commun? C'est un, l'être humain. Et l'être humain, ce n'est pas une machine. Et donc, toute la sensibilité, toutes les émotions qui tournent autour de l'être humain. C'est un métier où on a besoin de chiffres et donc avoir une assise, je dirais, chiffrée, financière est très importante parce que quand on parle aux gens, on leur parle souvent de leur rémunération. Et puis le troisième point, c'est les textes, tout ce qui est la partie légale qui doivent être des indicateurs, qui doivent être des points d'appui, mais surtout pas des règles de barrage. C'est vraiment des choses qu'il faut éclaircir et dont il faut se servir. Et pour moi, c'est un métier passionnant, en fait.
Et Céline, puisque tu as été aussi DRH, je me suis dit que tu avais probablement envie de rebondir.
Et oui, et juriste. Et en fait, oui, le cadre légal, parfois, peut être pesant dans nos fonctions de RH, puisque le droit social, en plus, est un droit très vivant, qui change constamment. Comment concilier justement cette souplesse et cette agilité dont tu parles dans ce cadre qui peut parfois être un peu rigide, ce cadre légal?
Pour moi, c'est en s'en servant comme un tuteur, comme un indicateur, mais donner du sens par rapport à ce qu'on peut faire. Parce que par rapport au cadre légal, on peut... alors, ce n'est pas prendre des libertés, mais c'est de dire qu'est-ce qu'il veut dire, dans quel sens il est. Et si on est géré par... si nos décisions sont conditionnées uniquement par le cadre légal... Alors là, on rentre dans une rigidité et forcément dans quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas positif, qui n'est pas drôle, qui n'est pas... Alors que comme on a affaire à des êtres humains, c'est comment est-ce que je m'appuie sur ce cadre légal pour dire voilà comment il s'insère dans notre société à nous et dans ce que l'on veut faire. À partir du moment où on a de l'éthique et je dirais une direction d'entreprise avec de l'éthique, avec de la vision, avec, tout peut se gérer. Tout peut se gérer parce que le cadre légal, souvent, il est inconnu côté collaborateur, côté salarié, mais aussi côté direction. Et il y a plein de choses qu'on peut faire grâce au cadre légal, grâce aux dispositions qui sont gagnantes, en fait. La matière RH et notamment le cadre juridique fait peur. Donc, les gens et notamment les opérationnels, nos directions opérationnelles, ne le maîtrisent pas très bien. Donc, le fait de pouvoir l'utiliser, le montrer comme des points d'appui et des forces, bah, ça peut aider. Ça aide énormément.
Complètement. Et en faire un droit vivant, en fait.
Bah, exactement.
Si tu avais, Christina, un conseil à donner à d'autres DRH sur comment bien vivre justement sa fonction de directeur des ressources humaines, lequel serait-il ?
Oh bah, soyez vous-même, soyez vivant, soyez vous-même, croyez en l'humain, croyez dans le collectif. Moi, je sais que ça peut paraître très bateau, mais souvent on dit on a les collaborateurs qu'on mérite. C'est peut-être 80-20, mais c'est réel. À partir du moment où il y a une certaine confiance, où on voit la direction agir, on voit dans un sens qui est celui qu'il communique, bah c'est beaucoup plus facile. Et puis, je crois que les RH doivent rester des RH. Ce ne sont pas des financiers, ce ne sont pas des marketeurs, ce ne sont pas des opérationnels. Je pense qu'il faut que ce sont des gens qui gèrent l'humain et l'humain fait la force d'une entreprise. Et donc, il faut être fier d'être en RH et ne pas chercher à remplacer que ce soit la direction commerciale, la direction financière, la direction... médicale, puisque nous sommes en santé, ou la direction marketing. Je pense que on a chacun notre rôle dans cet orchestre qui est une entreprise. Voilà.
Si tu avais une baguette magique, et si tu pouvais donc du coup exaucer un souhait pour le monde du travail, pour ton entreprise, qu'est-ce que tu ferais en premier si tu avais une baguette magique ?
Peut-être j'essaierai d'éclaircir ce qu'est le monde du travail par rapport à la sphère peut-être privée ou à la sphère... je crois que souvent les personnes peuvent confondre ce qu'elles ont vécu en tant qu'étudiant à l'école et rechercher des points d'appui, des repères qui ne sont pas dans le monde du travail. Je parle souvent par rapport à cette nouvelle génération où il faut... absolument que tout le monde soit poli, identique, lisse, montrer être très contributeur individuel, montrer que on peut s'en sortir tout seul, alors que c'est pas grave de faire on peut faire des erreurs, on peut demander de l'aide, on peut, et je crois que c'est ça le collectif dans le monde du travail, et pour moi est important.
Et donc, dans le futur, il faut travailler, d'après toi, à entretenir, à faire vivre ce collectif ?
Pour moi, oui. Et c'est vraiment ce que j'ai cherché. C'est-à-dire que quand chez Urgomédical, on a des personnes qui ont un parcours éducatif vraiment d'excellence. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de contributions individuelles très fortes, de performance, de surperformance. Et en fait, ce sont des personnes qui travaillent énormément et qui ne comptent que sur elles. Et en fait, l'idée, c'est de passer à compter sur soi, bien sûr, être toujours dans ce domaine-là, mais en comptant sur les autres aussi, en intégrant les autres aussi. Et c'est cette... je dirais que c'est ce passage-là, peut-être dans le milieu de l'entreprise, sur lequel on peut accélérer. Tu me demandais la baguette magique. Ouais, c'est vraiment accélérer le collectif, la confiance collective. Pour moi, une équipe performante, ça va au-delà des performances individuelles. On parle souvent de ça, d'ailleurs, dans le domaine du sport, dans le football. Dire, au-delà des individualités, quel est le collectif ?
Il y a le groupe 1 plus 1 égale 3.
Exactement. Exactement. Et ça, c'est vraiment ce que je m'aperçois qu'on peut encore, sur lequel on peut vraiment travailler dans le futur au niveau des entreprises.
Bien, Christina, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans vos bureaux, avenue d'Iéna, chez Urgo. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur les émotions dans le monde du travail.
On est même allé un peu au-delà.
Merci à
beaucoup.
Vous deux.
Merci,
Cécile. Merci beaucoup.
Merci, Cécile.